Marceau le midi.
Marceau le midi.
All right.
Midi 42. Hey, je vous parle du festival. Ça s'en vient, le festival. Les têtes d'affiche ont été annoncées pour cet été. Le DJ allemand Robin Schulz qui va être là. Il y a le populaire groupe rap français que j'ai vu au Centre Vidéotron qui était hallucinant. Ça me rappelle ma jeunesse, I Am, qui va être présent aussi au festival. I Am, c'est ceux qui dansent, je danse sous le mi, hein. Pas de pacotille, chemise ouverte, chaîne en or qui brille.
Je te connaissais pas,
toi. Pour l'occasion, ben, on a des passeports à vous offrir jusqu'à vendredi. Donc, vous restez à l'écoute de l'émission du matin pour peut-être gagner votre paire de passeports 5 jours pour le festival.
Wow.
Du 30 juillet au 3 août prochain. Donc, BLVD 102.1 et le festival, on est fiers partenaires de vos sorties musicales estivales. Donc, soyez attentifs à l'émission Rage Against le matin. Midi 43, je sais pas, il est plus tôt que je pensais. Midi 43, notre chum...
Nicolas Gagnon de la Fédération Nicolas canadienne Gagnon. Des contribuables est au bout du fil.
De la Fédération canadienne des contribuables est au bout du fil. J'ai un retard.
Bon.
Salut David.
David!
David, c'est peut-être le prochain.
Il va mal.
Mais ça va, mon chum?
Bonjour à tous. Ben oui, ça va super bien, vous autres.
Ouais, très content de te jaser. À Montréal, ils ont dit qu'on allait finir de ramasser la neige pour ce qui est des deux tempêtes au mois de mars. Vous autres, dans le secteur de Laval, on est rendu où pour ce qui est de la neige, là?
Ah, c'est pas super dans le côté. Ouais. J'ai aucune idée de ce qui se passe à Montréal cette année avec le déneigement, là, mais j'imagine que, selon ce que j'ai entendu dire, là, les fameuses pistes cyclables, ces genres de nouvelles infrastructures-là, ça nuit pas mal au déplacement de bains des déneigeuses, puis les rues étroites, ben, veux pas, ça facilite pas le travail. Mais de notre côté, à l'avant, c'est pas si pire, fait qu'on devrait être chanceux puis avoir presque plus de neige à ramasser de la dernière tempête d'ici la fin de la semaine. Je viens de voir qu'ils ont mis des pancartes devant chez nous pour ramasser, là. Donc, ça s'en vient.
On lâche pas. Mais il me semble que c'est plus compliqué qu'avant ramasser de la neige dans les villes, que ce soit à Québec, que ce soit à Montréal, que ce soit à Laval. Tu sais, Québec, là, nous autres, on a une problématique aussi, là. Les cols bleus de la ville de Québec sont en grève. Fait que tout dépend des précipitations qu'on a, ils décident de sortir ou pas. Dans le secteur de Laval, ils ont tellement mis de pistes cyclables partout des deux côtés de la route que la route s'est rétrécie. Les gens doivent se stationner aussi aux abords des pistes cyclables. Puis il y a des camions déneigeuses qui sont même plus capables de passer. Les gens préfèrent laisser leur véhicule en dessous du banc de neige plutôt que de les sortir de là.
Ben c'est ça. Puis en ce moment, je dirais que les services de déneigement, surtout à Montréal, ils commencent à payer le prix de la guerre à l'auto qu'ils ont menée au cours des dernières années, parce que une des problématiques principales pour les déneigeuses, c'est justement les voitures qui sont stationnées, ne serait-ce qu'en diagonale ou à des endroits qui ne devraient pas être, parce que ben au cours des dernières années, on a tellement cherché à limiter les espaces de stationnement et à faire payer les citoyens des montants d'argent assez importants pour qu'il y ait un permis de stationnement dans certaines villes ou plutôt dans certains quartiers de la ville. Fait que tu sais, au final, et ça, c'est une des principales problématiques aussi qui nuit au déneigement à Montréal. Puis en plus d'avoir fait des rues, comme par exemple la rue Sainte-Catherine, qui était auparavant 2 voies, bien, au cours des dernières années, on en a fait une rue à 1 voie. Donc le déneigement est pas mal plus complexe, même dans les artères commerciales. Donc, veut pas, ça pète d'en face présentement l'administration. Et le pire là-dedans, c'est qu'ils trouvent le moyen de donner des amendes aux gens qui sont stationnés en diagonale dans certaines rues. C'est été publié par certains commentateurs, là, dont Nathalie El-Grabli tantôt, qui montrait que justement, il y a des gens qui ont reçu un avis de une amende carrément parce qu'ils étaient mal stationnés, mais ils n'ont pas d'autres options pour se stationner. Donc, les gens sont pris entre l'arbre et l'écorce, puis ben le déneigement se fait tout croche.
C'est hallucinant. Puis, tu sais, avec la Fédération canadienne des contribuables, vous avez des gens qui surveillent de près l'argent qu'on donne au gouvernement. Et avec raison, toi, tu surveilles ça. Tu sais, année après année, ça nous coûte de plus en plus cher. Puis, on n'a pas l'impression que les services pour lesquels on paye, ça s'améliore. On a l'impression trop souvent que le gouvernement dépense de l'argent dans des affaires qui ne nous touchent pas, qui ne nous toucheront jamais, mais parce qu'eux ont l'impression qu'il faut absolument investir dans cette faire-là, ben, ils dépensent notre argent, puis l'année suivante, ben, faut qu'ils nous en redemandent encore plus. C'est frustrant, puis on en parlait, toi et moi, la semaine dernière, Nicolas. Tu sais, deux personnes qui travaillent pour payer tout ce qu'on a à payer dans le même foyer, ces gens-là font du 40 heures semaine, et année après année, leur dollar loisir diminue tellement que certains n'ont même plus de dollar loisir, puis doivent payer la maison sur la carte de crédit. C'est hallucinant, ce qu'on vit là présentement.
Ben, non seulement c'est hallucinant, mais le pire là-dedans, c'est qu'on voit à quel point le gouvernement, ben, surtout à Ottawa, ben, à Ottawa comme à Québec, là, il commence à avoir un parallèle à faire. Ben, on voit pas vraiment une offre de leur côté pour essayer vraiment réduire le fardeau fiscal puis donner plus de pouvoir d'achat aux citoyens et aux contribuables comme tels. On le voit dans certaines autres provinces, là, pas plus tôt que ce matin, on a appris que lors du dépôt du budget en Alberta, ils vont offrir une baisse de taxes, une baisse d'impôts, là, qui était promise auparavant par Mme Danielle Smith. Donc, ça, c'est intéressant. On voit que dans d'autres provinces aussi, on s'est attaqué, entre autres, à la taxe sur l'essence. Justement, là, il y a M. Ford, le premier ministre d'Ontario, qui est présentement en campagne électorale et qui veut faire en sorte que sa baisse de la taxe sur l'essence soit permanente et qui permette aux citoyens d'économiser quand même quelques centaines de dollars par année en taxe sur l'essence. Donc, on voit qu'il y a des mesures comme ça qui sont adoptées dans d'autres provinces pour vraiment réduire le fardeau fiscal. Mais nous, au Québec, bon, on a eu quand même la baisse d'impôts de 1 % en 2023 qui était bien accueillie. Mais d'un autre côté, c'est pas mal la seule chose qui a été faite par le gouvernement québécois au cours des dernières années pour donner plus de marge de manœuvre. Parce que sinon, au cours des dernières années, on a vu les comptes de taxes municipales augmenter, on a vu les tarifs d'électricité augmenter, il y a eu l'inflation qui a quand même fait perdre beaucoup de pouvoir d'achat aux gens, en plus de l'inflation, surtout au niveau de l'accès à l'habitation, où c'est de plus en plus compliqué pour les gens de se trouver une maison sans s'endetter davantage ou de manière drastique pour pouvoir passer et devenir propriétaire. Donc, il y a vraiment rien qui a été fait et on ne s'attend pas non plus à voir lors du dépôt du budget du gouvernement du Québec, qui devrait arriver là, pas mal vers la fin mars, ne serait-ce que des mesures pour permettre aux gens d'économiser un peu ou de payer moins d'impôts de taxes à la fin de la journée. Donc, il faut maintenir cette pression-là. Il faut rappeler au gouvernement du Québec qu'ailleurs, tant au sud de notre frontière que dans les autres provinces, il y a des gouvernements qui sont proactifs pour aider les contribuables et ça serait bien qu'il y arrête d'écouter certains groupes de pression qui s'opposent aux baisses d'impôts, justement, et qui proposent au gouvernement d'aller cueillir davantage d'argent dans nos poches.
En onde, hier, je parlais d'un couple de personnes âgées. Eux sont à retraite, leur maison est finie de payer. Puis là, ils voient le nouveau rôle municipal. Ils apprennent de la Ville de Québec que leur maison a augmenté de valeur. Ils voient une augmentation de 2 500 $ supplémentaires pour les taxes municipales. Puis eux sont en train de dire, ben je pense qu'on va vendre. Alors que leur maison est payée, Nick, mais parce que les taxes municipales augmentent, ils n'ont pas le choix de se dire, on n'aura pas le choix de vendre à un moment donné, là, parce qu'on n'est plus capable de payer.
Effectivement, les gens sont vraiment pris en otage.
Tu te fais sacrer dehors parce que la ville juge que ta maison a pris de la valeur. Là. C'est fou, c'est complètement fou tout ce qui arrive. Heureusement qu'il y a la belle gang de la Fédération canadienne des contribuables qui sont là pour surveiller tout ce que le gouvernement fait, que ce soit pour le provincial ou encore le fédéral. Tu voulais nous parler du fameux TGV, là, le TGV Québec-Montréal-Toronto. Moi, je trouvais ça assez excitant, là, même que je ferais un TGV ou un train ultra haute vitesse, là, coast to coast, donc d'un océan à l'autre, qui pourrait servir aux autres générations. Vous autres, vous voyez ça d'un autre œil?
Ben oui, avec raison, parce que je vais pas m'opposer au fait d'avoir une infrastructure supplémentaire. C'est sûr qu'un train, c'est très impressionnant, surtout un TGV. Le problème, par contre, c'est que, bon, c'était peut-être avant-gardiste dans les années 80-90 qu'on en parlait déjà du fameux TGV. Puis là, on en parle en 2025, c'est quand même assez curieux, surtout pour une année électorale, parce que je tiens à rappeler que cette idée revient constamment durant les années électorales. C'est revenu en 2021, d'ailleurs, où est-ce que François-Philippe Champagne avait fait sa fameuse conférence de presse pour nous en parler. Donc, je veux dire, c'est une idée qui revient constamment, mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est même pas la question du train comme tel. La première des choses, c'est vraiment, elle est où la légitimité de Justin Trudeau qui a annoncé sa démission le 6 janvier dernier pour nous annoncer une dépense quand même de plus de 100 milliards de dollars qui s'avère quand même le projet d'infrastructure le plus coûteux et le plus important du moins de l'histoire du Canada moderne. Et je veux dire, il a quand même annoncé sa démission alors que il laisse quand même derrière lui des finances publiques dans un état qui sont assez pitoyables. Donc, je me demande pourquoi est-ce qu'il y a cette capacité à prendre la carte de crédit des générations futures présentement et à faire des annonces quand même aussi coûteuses. Surtout, comme je vous dis, les finances publiques sont pas tout à fait dans un bon état présentement. La dette, elle a doublé. On a des déficits à répétition jusqu'en 2040. Et on est sur le bord de tomber dans une guerre commerciale. Donc, je comprends la volonté de consolider notre économie, de créer des ponts entre les provinces, d'avoir un lien ferroviaire peut-être entre Montréal ou plutôt entre Québec et Toronto. Mais déjà, les infrastructures ferroviaires qui sont en place dans cette région-là sont pas rentables. Donc, de rajouter un TGV à 100 milliards, puis ça, c'est ce qui est projeté pour l'instant. J'ai très hâte de voir le coût final. Ça va nous coûter très cher, puis on n'est pas sûr que ça va vraiment créer les retombées économiques qui étaient promises durant la conférence de presse.
Mais Nick, je me pose la question, tu sais, avec tout ce qu'ils ont fait en Europe, là, j'imagine que dans les premières années, ça n'a pas été super rentable, mais aujourd'hui, en Europe, tu te promènes en train, là.
Bien, c'est certain. Mais il faut dire aussi que ces fameux trains-là, ces TGV-là, ont été construits dans les années 60, 70, 80. Donc, on arrive en 2025, puis on est quand même dans un marché où est-ce que ça, il n'y a pas nécessairement une population très importante qui va non plus prendre le TGV à tous les jours en ces régions-là données.
C'est un grand territoire pour le peu de personnes qui est dessus, malheureusement, comparativement en Europe, par exemple.
Mais c'est d'est, c'est d'est en ouest, puis le TGV serait situé au sud du Canada, donc l'endroit où il y a le plus de monde. Je comprends qu'on n'est pas les États-Unis, là, ils sont 330 millions et quelques, là. Mais on mériterait ça, un genre de coast-to-coast où on peut monter à Toronto assez rapidement. Moi, je trouve que sauver une demi-heure pour ce qui est de Montréal, je trouve ça très ordinaire. Là. À ce niveau-là, je vais prendre ma voiture. Mais malgré le fait qu'on skip peut-être le trafic, mais je sais pas, un projet qui va être encore là dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, pour mes enfants, mes petits-enfants, t'sais, on pourrait faire pour eux ce que nos parents n'ont pas nécessairement fait, là.
Ben oui, je suis quand même d'accord au niveau de l'infrastructure puis du leg que ça laisse. Il y a quand même un héritage important là-dedans. Puis en termes d'infrastructure, c'est quand même non négligeable ce que ça représente, un train sur 800 km, un TGV, qui va être quand même d'une technologie supérieure à ce qu'on utilise présentement. Mais le point, puis moi, le détail qui va rester le plus important à mes yeux, c'est ce que ça va coûter aux contribuables. Parce qu'il faut rappeler que ça risque possiblement d'être le TGV ou l'un des TGV les plus coûteux de l'histoire. Le seul autre qui présentement bat cette dépense, c'est celui qui est construit entre San Francisco et Los Angeles.
Ouais.
Et pour rappeler qu'en 2008, quand ça a été proposé, ce projet-là, c'était supposé coûter environ 70 milliards quand ça a été voté par les électeurs de la Californie. Aujourd'hui, en 2025, on évalue la facture à 128 milliards et c'est pas terminé. En fait, le TGV devrait être opérationnel d'ici 2033 de manière complète. Et pour donner une idée, la distance entre San Francisco et Los Angeles, c'est environ 500 000. Donc, c'est à peu près la même distance qu'entre Québec et Toronto. Donc, c'est est-ce que nous, on devrait s'attendre à une telle explosion de coûts? Il faut dire que pour l'instant, au courant des 6 prochaines années, la seule chose qui va avoir lieu, c'est le pré-développement qui va coûter à lui seul 4,2 milliards. Donc, il n'y aura pas de pelletée de terre au courant des 6 prochaines années. Mais ça va quand même déjà nous coûter de l'argent en consultation et en frais, etc. Donc, j'ai hâte de voir cette quoi la facture finale, mais il va falloir garder un œil vraiment sur l'explosion des coûts qui ne serait pas quelque chose de très surprenant. On est quand même habitué au Canada, surtout avec le gouvernement actuel, que ce soit à Rivcan ou Trans Mountain, les dépassements de coûts, on en a vu plusieurs.
T'as-tu écouté le débat des possibles futurs chefs du Parti libéral du Canada?
Ah, j'aurais voulu dire non, mais oui, je l'ai écouté.
Mark Carney a même pas semblé bon. T'sais, il a même pas jugé que c'était important de parler du déficit puis comment qu'on allait arrimer le budget pour qu'on arrive.
L'attitude est un peu étrange, mais en même temps, c'était est weird. Explicable par le fait qu'il pense sûrement être élu sans grande difficulté, mais ça démontre aussi un laxisme par rapport à la communication.
Les quatre étaient tout le temps en accord les uns avec les autres, puis il n'a pas été capable de nous dire comment il va équilibrer le budget, alors que c'est pas mal ça l'enjeu numéro un, là.
Ben, surtout que son approche est exactement la même que Justin Trudeau en 2015, mais mieux articulée avec quelqu'un qui connaît un peu mieux les termes économiques. Parce que ce qu'il a proposé jusqu'à maintenant, c'est vraiment de ne rien couper. Donc, on coupe pas dans la fonction publique, on ne coupe pas les taxes. On va peut-être cacher tranquillement la taxe carbone par en arrière pour que les gens la voient plus directement sur leur facture, mais on va trouver un moyen de la penser quand même. Et pour le reste, ce qu'il espère, c'est que avec la croissance économique, ça va créer des retombées qui vont permettre de essentiellement combler ces déficits-là à long terme. Mais Justin Trudeau, c'est ce qu'il disait en 2015, quand il disait que les fameux déficits vont s'équilibrer d'eux-mêmes, c'est exactement cette tournure-là. Il disait que bon, on va s'endetter, mais on va tellement investir dans l'économie que ça va amener le PIB à croître, qu'on va aller chercher des impôts et des taxes supplémentaires grâce à ça, et donc les déficits vont s'effacer. Mais c'est pas du tout ce qui est arrivé. Au final, on a juste doublé la dette, puis on a encore des déficits pour les 15 prochaines années. Je veux dire, à la fin de la journée, on réalise à quel point Carney est pas si différent que Trudeau, puis en fait, quand on réalise que Carney était pas mal dans l'ombre de Trudeau au courant des 5 dernières années, même plus, ben on commence à faire des liens entre les deux assez facilement.
Ça, il y a des analystes politiques au Québec qui étaient même pas au courant de ça. Hein. C'est Carney qui soufflait dans les oreilles à Justin Trudeau pendant le temps de la pandémie, sa façon de gérer l'économie pendant le temps de la pandémie, puis ça a sorti dans les dernières semaines, mais quand il est arrivé, tout le monde disait « Non, mais il est nouveau, il a jamais été pour le Parti libéral », alors que il donnait des petits conseils à Justin depuis des années et des années.
Oui, puis puis même qu'il espérait se lancer en politique à la place de Justin Trudeau, en fait, pas plus tard, je pense que c'est en 2012 ou en 2013, puis quand il a réalisé que Justin Trudeau allait se lancer, il a comme réalisé que ses chances en termes de popularité étaient beaucoup moins importantes, puis il a décidé de pas faire le saut en politique à ce moment-là. Après ça, on a appris que, apparemment, Stephen Harper voulait le recruter comme ministre des Finances, mais ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont là pour confirmer l'information.
Exact.
Mais à la fin de la journée, c'est quelqu'un qui rôde à l'entour de la politique depuis plusieurs années, voire plus d'une décennie. Quand on remarque que ces politiques sont similaires à celles de Trudeau, c'est pas un peu hasard. Et on voit aussi qu'avec Freeland, Karina Gould et Frank Bayliss, c'était pas mal dans la continuité également. Mais je vais saluer Frank Bayliss, qui est quand même un député du Québec et qui était celui qui s'est le mieux débrouillé pour articuler ses arguments en français hier.
Mais il a travaillé en français, il était député pendant quelques années, il a travaillé en français aussi. Mais bref, écoute, on va parler de Radio-Canada. On en a parlé la semaine dernière avec Pascal, la députée et ministre qui ne sera pas là aux prochaines élections, a dit que ce serait bien que Radio-Canada soit totalement indépendant. Donc, plus de publicité d'entreprises privées, mais on va leur donner un budget qui va faire en sorte qu'ils n'auront plus besoin de l'argent du public.
Oui, c'est assez phénoménal ce qu'elle a annoncé quand même, parce que les gens s'en sont pas rendus compte, mais ce qu'elle disait carrément, c'est que dorénavant, Radio-Canada ne sera plus soumis au rapport budgétaire comme c'est le cas présentement. C'est-à-dire que le budget de Radio-Can est pas mal défini par les orientations des budgets qui sont déposés par le gouvernement à Ottawa chaque année. Généralement, vu que c'est un gouvernement qui est libéral et qui est très favorable au financement de Radio-Canada, il n'y a pas eu de problème. On a constamment augmenté les budgets et donné les montants qui étaient demandés en temps et lieu. Mais là, ce qu'elle veut, c'est que ce soit plutôt inscrit dans les crédits statutaires. Et ça change la donne, parce que essentiellement, elle veut que dorénavant, le gouvernement, peu importe ce qui arrive, va être obligé de financer Radio-Canada, et pas à n'importe quelle hauteur, parce qu'elle laissait aussi entendre que Radio-Canada devrait être financé au même titre que le modèle qu'on voit dans les autres pays du G7. Et dans les autres pays du G7, en fait, les diffuseurs publics sont financés à concurrence d'environ 62 $ par citoyen. Puis si on fait le calcul rapidement, si on prend ce modèle-là puis on l'applique au Canada, ça voudrait dire que le financement de Radio-Can monterait à pas loin de 2,5 milliards de dollars par année, alors que présentement, ils reçoivent environ 1,4 milliard. Donc, on augmenterait drastiquement le financement de Radio-Can, on contournerait le rapport budgétaire, et en plus, on va pas s'attaquer à la culture des bonus des dépenses quand même outrageuses qui ont eu au courant des dernières années et qui ont vraiment terni l'image de Radio-Can et qui ont fait en sorte que plusieurs personnes demandent du définancement de la part de l'organisation. Mme Saint-On, je propose le contraire. On va garocher plus d'argent sur l'organisation, la rendre plus indépendante du politique. Oui, peut-être, mais ça va faire en sorte que, justement, on va avoir moins de restitution de comptes de leur part. Et ça, c'est très dommageable pour les contribuables qui vont payer la facture pour avoir plus de restitution
de plus accepter d'argent du privé pour que le privé puisse placer de la publicité à Radio-Canada Télé, je trouve ça un peu hallucinant. Le privé qui voulait donner de l'argent à Radio-Canada refusait ça. C'est assez particulier, là.
Oui, c'est refuser l'argent du privé puis prendre l'argent des contribuables contre leur gré par la suite. Donc, c'est effectivement, je trouve que c'est une approche contre-productive par-dessus le marché. Puis je pense pas que les publicités ou que le privé comme tel a une influence importante là, sur les capacités de livrer l'information de Radio-Canada comme tel.
Il y a beaucoup de choses là-dedans, là. Mon opinion est par rapport à... Peut-être qu'ils devraient serrer la ceinture ou regarder aussi à l'intérieur de leur propre système, à savoir s'il y a des choux gras, s'il y a une possibilité d'aller couper. Cependant, moi, la chose que j'ai défendue avec beaucoup d'intensité la semaine passée par rapport à ça dans le pit stop avec Denis Gravel et Yannick, là, c'est... Je trouve qu'il faut extrêmement faire attention, pareil, à comment est-ce que les gens voient Radio-Canada maintenant, puis l'argent qu'ils veulent donner essentiellement annuellement à cette société d'État-là, parce que ça reste que c'est du public, puis c'est tellement important, surtout à l'ère où on est. Fait qu'en tant que public, donnons justement dans nos... On pourrait commencer à revendiquer peut-être plus d'informations neutres, tu sais, d'en jaser comme ça, mais de diminuer l'image de Radio-Canada puis de dire « ils n'ont pas besoin de notre argent, puis je veux couper, puis tout ». Ça me crée énormément de problèmes, de dilemmes internes, là, parce que je me battrais, Nicolas, pas physiquement, mais dans la rue, là, à essayer d'expliquer pourquoi c'est important, là. Puis je travaille pour un média qui est privé, puis je l'ai choisi, ce média privé-là. Là. Mais ça reste que je défendrai corps et âme un média public toute ma vie. Là.
Oui, puis écoute, c'est totalement louable, puis je suis pas contre l'existence de Radio-Canada non plus, ni contre même une partie de son financement. Puis je pense que même les gens qui demandent sont des financements plus... au niveau politique, là, pour citer les quelques-uns comme Pierre Poilievre, il parle rarement, voire jamais, de la branche francophone de Radio-Canada. Donc, moi, c'est sûr que je vois encore beaucoup d'importance à ce diffuseur-là. Par contre, est-ce que je suis prêt à ce qu'on leur octroie $1 milliard de plus par année sans qu'on ait plus de réduction de compte? Mm-hmm. Ou est-ce que moi, je m'attendrais au minimum à ce qu'il y ait un travail qui soit fait à l'interne pour que la culture change, comme au cours des dernières années?
Ça, je trouve que c'est une réflexion qui est saine, mais j'ai de la misère avec, mettons, la haine qui peut
Puis de
sortir
de s'obliger à être bon. Normal. De s'obliger à être bon aussi. Là. Je veux dire, c'est pas normal que les gens décrochent de ton bulletin de télé à la grandeur du Canada.
Mais
là,
le côté sombre d'un média public, c'est de s'asseoir sur ses lauriers, de dire, ben nous, on a contribution de contribuables, on s'assoit là-dessus et tout ça, au lieu de se challenger, parce que t'as pas le rapport un petit peu plus pécunier comme nous, on a dans un média qui est plus privé. Sauf que, de l'autre côté, c'est aussi le seul avantage et qui est majoritaire puis super grand de se garder une certaine démocratie dans tout ça. Là.
Mais je comprends tout ça, là. Mais si les gens écoutent plus, là, t'sais, s'ils n'ont pas d'auditoire, ça sert à quoi d'augmenter les budgets année après année si les gens sont pas à l'écoute de ces bulletins de télé-là? T'sais? Moi, je voyais la compensation par le privé. Je trouve ça intéressant. Tu as une obligation de performance. Tu es bon, il y a plus de monde qui t'écoute, donc il y a des entreprises privées qui veulent placer pendant le temps que tu fais tes nouvelles, puis tu fais de l'argent avec ça. Mais là, ils vont piger directement dans les poches des contribuables qui, eux autres, ben, il n'en reste plus bien, là.
Ils n'ont
pas d'obligation de performance.
Tout le processus du fameux rapport budgétaire qui est un peu dérangeant aussi. Il faut quand même qu'à la fin de la journée, le financement soit soumis à une reddition de compte complète et qu'à chaque année, les contribuables soient un peu plus informés sur ce qui se passe chez Radio-Can. Puis à la fin de la journée, c'est à peu près comme ça qu'on va être en mesure de reconnecter un peu ou de repasser ces fameux ponts. Cette perte de confiance qu'ont certains envers les médias de masse, bien, elle peut être reconstituée s'il y a un peu plus de transparence de leur part.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, on vous suit sur contribuable avec un S.ca.
Yes, exactement.
C'est toujours un plaisir, on se reparle la semaine prochaine.
Toujours un plaisir, à très bientôt.
Bye-bye. 13h04, on va faire une courte pause, les amis, après la pause. C'est mon chum Pat Raymond, qui est un ex-gestionnaire de patrimoine, ex-militaire aussi, qui va venir faire son tour en studio. D'ici là, si vous avez des questions, 418-971-1021, 418-971-1021, on revient. Boulevard 1021. Marceau.